hors champ. Orchan, bonsoir à toutes et à tous, et merci de votre fidélité. Orchan, ce soir, en compagnie de Catherine Vidal. Catherine Vidal, vous êtes neurobiologiste, vous avez été longtemps directrice de recherche en neurosciences à l'Institut Pasteur, vous avez fait des recherches très approfondies sur le rôle de la douleur, sur le rôle du cortex cérébral dans la mémoire, sur l'infection du cerveau par le virus du sida, et puis petit à petit, et peut-être que ce sont vos recherches qui vous ont amené à devenir une spécialiste du cerveau. Et une militante féministe. Mais avant de revenir sur votre parcours et sur vos différentes publications, je voudrais savoir comment vous avez été conduite à avoir une vocation scientifique. Était-ce une vocation, une attirance ?
La raison tient essentiellement à une professeure de sciences naturelles au lycée. Qui en fait a vraiment permis de transmettre à tous les élèves de la classe. Elle nous a passionnés pour la biologie et elle nous a donné le goût de poser des questions, le goût d'être curieux.
Et ensuite, la recherche sur la douleur, elle a été motivée par quelle réflexion personnelle ?
Ensuite, quand on décide de faire des études à l'université pour devenir chercheur, chercheuse en l'occurrence, on suit tout un cursus et donc il faut déjà passer les examens, passer une thèse de doctorat et après on s'oriente dans un laboratoire qui va travailler sur des thèmes qui nous séduisent. Et j'ai eu la chance, très vite après ma thèse, d'être recrutée à l'Institut Pasteur pour travailler justement sur un sujet qui concerne les mécanismes physiologiques de la douleur. Et je dois dire que c'était une aventure absolument prodigieuse parce que on était dans les années 80 et c'était le moment de la découverte des endorphines, ces fameuses substances que l'on produit naturellement et qui miment les effets de la morphine. Donc c'était vraiment une révolution dans le monde de la neurophysiologie et de la douleur. Et l'avoir vécu, c'était vraiment une chance exceptionnelle.
Et comment travaille-t-on à l'Institut Pasteur sur les mécanismes de la douleur ? Sur des vrais cerveaux ?
Non, on travaille essentiellement à l'Institut Pasteur, on fait surtout de la recherche fondamentale. C'est-à-dire qu'on essaye de répondre à des questions qu'on ne peut pas directement tester chez l'être humain. Donc, on travaille d'abord sur des modèles animaux. La pertinence de la recherche scientifique, c'est d'essayer, quand on veut aborder une question, de trouver le meilleur modèle pour répondre à cette question. Et donc, souvent, les rats, les souris, mais aussi les approches in vitro, des cellules en culture, peuvent nous aider à répondre à ces questions fondamentales de recherche. Et justement, c'est là que, dans la compétition internationale, celui ou celle qui trouve le bon modèle, aura les meilleurs résultats.
C'est ce qui vous est arrivé ?
J'ai eu, assez de chance dans ce domaine-là. Que c'était pas forcément une chance, mais c'est que j'ai toujours eu un souci particulier à m'intéresser à ce qui concerne la physiologie. C'est-à-dire, non pas décortiquer les systèmes au niveau moléculaire, au niveau cellulaire. C'est une approche, en fait, très pointue, très réductionniste, si j'ose dire. Moi, ce que j'aime, c'est les systèmes, c'est les régulations, c'est la physiologie, c'est essayer de comprendre comment un organisme interagit avec son milieu environnant et dès qu'on agit avec son milieu environnant, nos comportements prennent du sens.
Avez-vous l'impression que la recherche a beaucoup évolué depuis une vingtaine d'années, date à laquelle vous avez commencé à travailler sur les mécanismes de la douleur? Et n'avez-vous pas l'impression que toute la société porte ses efforts pour qu'on vive dans un monde où il n'y ait plus de douleur, où la douleur s'efface, où le mot même de douleur ne devrait plus exister?
Oui, c'est comme la mort, finalement. Hein. Disons que ce qui concerne les démarches autour de la prise en compte de la notion de douleur, c'est aussi la même évolution que d'autres façons dont on va considérer, justement, quelque part, l'être humain. L'être humain, alors qu'auparavant, il était davantage considéré dans sa globalité, et que, par exemple, dans les relations médecin-malade, il y avait une prise en compte aussi de la vie psychique et de l'environnement social, culturel de la personne, qui fait que l'expression des symptômes s'inscrit dans une histoire. À l'heure actuelle, on a de plus en plus tendance à vouloir tout réduire à des circuits de neurones, à des molécules chimiques, à des gènes, qui serait censé expliquer toute la complexité de l'humain. Et en fait, on se fourvoie quand on va dans ce sens-là, parce que on ne peut pas comme ça balayer toute la complexité de la structure psychique d'une personne, de la complexité de ce qui donne un sens à sa vie, et comment, à travers son corps et ses pathologies, elle va exprimer certaines souffrances.
Nous allons écouter la voix de François Jacob à propos de la question de l'inné et de l'acquis chez l'être humain. C'est une archive INA du 28 juin 1971.
Si l'on regarde l'évolution et si l'on considère les organismes de plus en plus compliqués, de plus en plus hiérarchisés, il est très difficile de caractériser la direction de l'évolution si on ne veut pas être trop anthropocentrique et si on ne veut pas immédiatement tomber dans la notion de progrès. Or, la façon probablement la meilleure de décrire l'évolution, c'est de dire que ce qui se développe chez les organismes à mesure de l'évolution, ce sont les mécanismes à recueillir de l'information, des informations sur leur milieu et à les utiliser. Ceci veut dire que la rigidité de l'hérédité est de moins en moins grande, si vous voulez, que le programme génétique est de plus en plus souple. Et cette souplesse se manifeste au maximum avec le développement du système nerveux et en particulier avec le développement du système nerveux humain. Au niveau de l'homme et au niveau d'un système nerveux central et du cerveau très développé, il y a un jeu incessant entre la part innée et la part apprise, si vous voulez. Par exemple, prenons un cas simple, le cas du langage. Ce que donne l'hérédité au petit homme, c'est le pouvoir d'apprendre un langage, c'est la capacité à apprendre un langage, et ça uniquement, c'est vrai, uniquement dans le genre humain, aucun autre être vivant n'a la possibilité, n'a la capacité génétique d'apprendre une langue. Mais ce que détermine l'hérédité, c'est purement et simplement la capacité d'apprendre une langue. Maintenant, quelle langue il va apprendre, ça dépend de son milieu, ça dépend de ce qu'il va apprendre. Et tous les linguistes, je crois, s'accordent aujourd'hui pour penser qu'un enfant mis dans une famille française apprendra le français, mis dans une famille anglaise apprendra l'anglais, je parle comme première langue, ou mis dans une famille de Nouvelle-Guinée apprendra le langage qui est parlé dans cette tribu de Nouvelle-Guinée.
Nous venons d'entendre la voix de François Jacob. Je pense qu'il a été très important dans votre itinéraire. Qu'a-t-il apporté de fondamental? Cette thématique de l'inné et de l'acquis constitue une orientation majeure dans votre itinéraire et dans vos engagements, Catherine Vidal. Et qu'a-t-on apporté de plus dans cette problématique qu'a si bien définie François Jacob aujourd'hui?
Oui, déjà, je voudrais saluer la pensée lumineuse de François Jacob.
Et d'une clarté extraordinaire.
Oui, et qui était non seulement un immense scientifique, mais aussi un très grand humaniste. Et François Jacob, non seulement a fait des travaux d'exception, qui lui ont valu avec André Lvoff et Jacques Monod le prix Nobel, mais François Jacob avait vraiment un souci particulier de participer à la diffusion des connaissances scientifiques et aussi, à lutter contre un certain nombre d'idées qui laisseraient croire que les êtres humains, dès la naissance, sont enfermés dans un destin sous prétexte qu'ils seraient programmés génétiquement. Quand François Jacob dit, comme tout organisme vivant, l'être humain est programmé génétiquement, mais il est programmé pour apprendre. Cette phrase est merveilleuse parce qu'elle permet à tout un chacun de comprendre à quel point les vieilles querelles sur quelle est la part de l'inné, quelle est la part de l'acquis, toute cette opposition, en fait, n'a plus de mise parce qu'en fait, il y a une interrelation permanente entre le biologique et le culturel. Et à partir du moment où on fait comprendre ça au plus grand nombre, cela évidemment met à mal toutes les thèses essentialistes qui laisseraient croire qu'on est tous, dès le départ, nés différemment parce que programmés génétiquement de façon différente. Et comme vous le savez, toutes les thèses essentialistes, qui hélas sont toujours bien présentes, ça fait aussi la base des idées qui soutiennent que les différences entre les humains...
L'inégalité des races.
Le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie et aussi, bien sûr, le sexisme.
Donc, pensez-vous, vous qui êtes une militante et qui considérez qu'être une grande scientifique comme vous êtes, ça constitue un combat des Lumières pour faire passer les idées les plus élémentaires qui ont été établies scientifiquement, considérez-vous que la science, aujourd'hui, fait assez son travail de vulgarisation pour faire passer à l'intérieur de notre société des éléments rationnels que vous, scientifiques, vous avez établis?
Donc là, vous posez la question très intéressante du statut de la science dans la société. Je crois que quand même, il faut réaliser que contrairement à une idée reçue, souvent partagée par un grand public, en fait, la science n'est pas neutre. La science s'inscrit dans un contexte historique, social, économique, politique. La science, elle est faite par des êtres humains qui vont décider de leur sujet d'étude, des méthodes utilisées, qui vont interpréter leur objet d'étude, souvent de façon différente. C'est-à-dire que les regards des scientifiques sur un même objet d'étude peuvent être différents. Ils peuvent s'accorder, ils peuvent s'opposer. Et donc, cette notion de neutralité de la science ne correspond pas à la réalité de la pratique scientifique. Mais le fait justement qu'il y ait des divergences dans les interprétations et dans la façon de recueillir les résultats, c'est ça qui fait toute la force de la science, parce que rien n'est jamais acquis quelque part définitivement. En tout cas, les interprétations peuvent changer, même s'il y a des faits qui sont difficiles à contester. Mais ce qui est important, c'est justement de relativiser cette notion de comme quoi la science, c'est pas le nouveau dieu qu'on va justement encenser à l'heure actuelle, qui serait censé nous apporter toutes les réponses à nos interrogations. Pour répondre à nos interrogations, certes, la science peut y contribuer, mais évidemment, enfin je parlais de la science dure, tout ce qui relève des sciences humaines et sociales, qui sont tellement importantes à considérer quand on s'intéresse aux grands problèmes de l'humanité à l'heure actuelle.
Alors vous, depuis de nombreuses années, vous intéressez au cerveau, à la plasticité du cerveau. Vous avez mené un combat que vous continuez en ce moment même pour dire ce qui me paraît évident, mais qui manifestement n'est pas évident étant donné les nombreuses attaques que vous essuyez, que le cerveau de l'homme est équivalent à celui de la femme, ou plus exactement, celui de la femme est équivalent, exactement le même, que celui de l'homme. Est-ce que vous pensez que nous avons encore, aujourd'hui au XXIe siècle, hérité des thèses soi-disant scientifiques de certains médecins spécialiste du cerveau, qui avait expliqué à nos ancêtres que le cerveau de la femme était beaucoup plus petit, beaucoup plus léger, et que donc elle était forcément inférieure?
Oui, à nouveau, on fait face à une question qui est celle de l'exploitation des résultats scientifiques dans un contexte social, politique, culturel, qui fait que une donnée scientifique en tant que telle va pouvoir être instrumentalisée selon l'idéologie d'une époque.
Au 19... Réinstrumentalisée, voilà. On le voit bien aujourd'hui.
Au 19e siècle, qui était une époque où on découvrait le cerveau. Hein. Auparavant, cet organe était encore assez mystérieux. Hein. Et on a commencé à pouvoir conserver les cerveaux dans le formol, donc à pouvoir les couper en tranches et à regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, ces premières études sur les cerveaux, et puis aussi les observations des cliniciens suite à des lésions dans le cerveau, quand on regardait les déficits qui s'en suivaient, ont entraîné évidemment un engouement des médecins de l'époque. Et très vite, la question s'est posée, est-ce que les cerveaux des hommes et des femmes sont différents ? Et les résultats montraient que, en moyenne, le poids des cerveaux des hommes est plus important de quelques 4-5% que le poids des moyens des cerveaux des femmes. Et ce résultat statistique a été employé pour justifier la soi-disant intelligence supérieure des hommes sur les femmes, mais on l'a utilisé également pour dire que il y avait des différences entre les blancs et les noirs, c'est parce que les blancs avaient un cerveau plus gros que les noirs et aussi que les patrons avaient un cerveau plus gros que les ouvriers. Donc, vous voyez, cette instrumentalisation, elle a toujours existé, elle n'est pas nouvelle. Et c'est ce contre quoi aussi se battait François Jacob. Hein. C'est-à-dire que laisser croire qu'il y a des données biologiques qui, de façon incontournable, vont en fait présider au destin d'une personne, c'est ça qui faisait qu'il a eu besoin d'écrire des livres de vulgarisation et de sortir de son laboratoire. C'est ça aussi qui, moi, m'a incité à me dire, il y a des moments, il faut enlever sa blouse blanche et puis tenter, dans un langage simple, d'expliquer à un grand public quelles sont les avancées scientifiques et comment, justement, cette notion de plasticité cérébrale, parce que c'est très important d'insister sur ce concept, ce concept de plasticité cérébrale qui est nouveau. Hein. Avant, il était plus théorique que pratique et que démontré concrètement. Maintenant, avec les techniques d'imagerie cérébrale par IRM, on peut vraiment voir le cerveau se modifier en fonction des expériences de vie, en fonction des apprentissages.
Oui, vous expliquez par exemple dans un de vos bouquins que un pianiste n'a pas le même cerveau qu'un non-pianiste parce qu'il a développé à l'intérieur d'une zone du cerveau par cette plasticité dont vous parlez, quelque chose que le non-pianiste n'aura pas. De la même manière, vous citez aussi l'exemple du jongleur avec 3 balles, qui lui aussi n'aura pas le même cerveau parce qu'une partie de son cerveau... Donc cette notion de plasticité, comment peut-on la faire comprendre ? Est-ce que c'est le résultat d'une succession d'expériences ? La répétition des expériences qui finalement remonte vers le cerveau, comment comprendre tout cela ?
Alors cette notion de plasticité, déjà on peut l'appréhender quand on s'intéresse au développement du cerveau. Parce que contrairement au reste de l'organisme, le cerveau à la naissance n'est pas du tout mature. Bon, un petit bébé arrive au monde avec un corps qui est quasiment déjà préconstruit. Hein. Il a des petits poumons, un petit cœur, des petits os. Mais plus tard, tous ces organes vont quelque part se contenter de grandir. Alors que le cerveau à la naissance, c'est pas du tout ça. Le cerveau à la naissance, il est vraiment dans un état d'immaturité. Il possède 100 milliards de neurones. Ces neurones à la naissance vont cesser de se multiplier, mais seulement 10% d'entre eux sont connectés. Donc cela veut dire que 90% des connexions entre nos milliards de neurones vont se fabriquer à partir du moment où l'enfant est en interaction avec son milieu extérieur. Et c'est cette interaction avec le milieu extérieur, interaction avec le milieu au sens large, le milieu physique, affectif, culturel, social, qui va réellement permettre au cerveau de se construire. Et c'est bien ce que disait à nouveau François Jacob quand il parlait donc du langage. Bon, et justement de réfléchir à l'interaction entre l'inné et l'acquis. On va dire que l'inné, c'est la capacité des neurones à se connecter entre eux, mais l'acquis, c'est la réalisation effective de ce câblage. Et ce câblage, justement, puisqu'il est le fruit d'une interaction avec l'environnement social, culturel, affectif, etc., donc ce câblage va être différent pour tous les individus qui existent sur Terre, parce que chacun de nous a une histoire différente. Chacun de nous a traversé des expériences de vie qui ne ressemblent pas à celles des autres. Donc, nous avons toutes et tous des cerveaux différents. Nous sommes 7 milliards d'individus sur Terre. Ça veut dire autant de personnalités différentes et autant de cerveaux différents. Et ce que les études d'imagerie cérébrale ont montré, c'est que les différences entre les cerveaux de personnes d'un même sexe sont tellement importantes qu'elles dépassent la plupart du temps, sur le plan statistique, les différences entre les sexes. Donc c'est cette notion de diversité qui est fondamentale et qui est totalement associée à celle de plasticité cérébrale, puisque l'on sait maintenant que notre cerveau, pour se construire, a besoin d'être en interaction permanente avec l'environnement.
Et donc chacun se construit son propre cerveau selon ses aspirations et ses désirs.
Voilà, selon son itinéraire de vie. Alors, bien sûr, on peut trouver des différences entre les cerveaux des femmes et des hommes. Il n'est pas...
jusqu'à la fin de notre vie. La plasticité existe jusqu'au dernier moment.
Bien sûr. Enfin, elle ne s'exprime pas forcément de la même façon, mais on ne peut pas dire qu'il existe un âge limite après lequel tout est fini et qu'on n'a plus d'espoir pour être capable d'apprendre et d'évoluer dans nos adaptations à l'environnement. Bon. C'est plus difficile, effectivement, quand on est plus âgé. Mais néanmoins, ça existe. Mais pour revenir à la question des cerveaux des garçons, des filles, et des hommes et des femmes, donc, il est bien évident qu'il y a des différences. Ces différences peuvent se traduire par aussi des différences d'aptitude et de comportement. Il n'est pas question de nier les différences, bien évidemment, mais la point pertinent, c'est d'essayer de comprendre d'où viennent ces différences.
Alors, prenons des expériences, parce que vous êtes une femme de science, vous établissez des protocoles, vous démontrez ce que vous avancez et vous observez. Et là, vous parlez de plusieurs expériences, notamment la différence entre un petit garçon et une petite fille, je crois jusqu'à l'âge de 3 ans, eh bien, il se trouve quand même, et ça c'est un fait, c'est pas l'idéologie d'une société, que les petits garçons jouent avec des choses qui s'assemblent, qu'on pourrait appeler les Legos, et puis les petites filles, elles jouent aux poupées. Alors pourquoi? C'est dans le cerveau, ça? C'est avant que la plasticité n'envahisse nos cerveaux?
Alors pour justement essayer de comprendre quelle est la part du biologique et quelle est la part du culturel et de l'environnement dans ces différences qu'on peut observer dans le développement des garçons et des filles, il faut faire des études justement très précises qui s'intéressent au développement des enfants et au moment où les différences qu'on peut noter émergent et ensuite on essaye de comprendre quel va être le devenir de ces différences. Alors si il y a eu récemment une étude remarquable qui a rassemblé tous les articles scientifiques qui portent sur ces questions de développement de l'enfant de 0 à 3 ans, il s'avère que la seule différence très précoce que l'on peut observer, c'est une différence dans la tonicité musculaire des garçons. À la naissance et jusque l'âge de environ 2 mois, ils sont un petit peu plus toniques que les filles. Mais en ce qui concerne le développement des autres capacités, par exemple le babillage, les capacités à se repérer dans l'espace, les choix des jouets, toutes ces différences qu'on peut observer entre les enfants, garçons et filles, en fait, n'apparaissent que à partir de l'âge de 6 mois ou 1 an. C'est-à-dire à des âges où l'enfant a déjà été largement en contact avec son environnement. C'est l'acquis en interaction, bien sûr, avec le biologique. Vous voyez, on peut pas dire tant de pourcents d'innés, tant de pourcents d'acquis. Les deux sont totalement indissociables. Mais quand on dit ça, ça veut dire que le biologique n'est pas le maître qui décide de tout et de notre destin.
Donc ça veut dire que aucune différence dans le cerveau n'est innée.
Il peut y avoir des différences à la naissance qui soient innées, comme vous dites. Mais la question est que ces différences vont ensuite peut-être être complètement submergées par l'acquis, justement par l'expérience de l'enfant dans son environnement, qui va faire que des nouvelles connexions entre les neurones vont se former en fonction justement du style d'éducation, de la façon dont l'enfant sera ou pas dans un confort affectif, par exemple, ce qui va orienter, bien sûr, la façon dont nos cerveaux se façonnent.
Les cerveaux des hommes et des femmes sont donc exactement les mêmes?
Non, ils sont tous différents.
Oui, chacun. Oui, non, mais l'égalité de cerveau, si j'ose dire, entre hommes et femmes, est quelque chose qu'on peut prouver scientifiquement aujourd'hui.
Non, il y a une inégalité dans les capacités et dans les aptitudes intellectuelles, dans les capacités de raisonnement, les capacités de pensée, de mémoire, d'imagination, toutes ces capacités cognitives sont les mêmes chez les hommes et chez les femmes, chez les garçons et les filles. Mais ce qui va changer, c'est la façon dont l'expérience propre à chacun va forger justement, et va canaliser certaines aptitudes dans un sens ou dans un autre. Et le plus souvent, en ce qui concerne les femmes et les hommes, souvent il y aura l'influence des normes sociales qui vont faire que les petites filles vont davantage se conformer à des stéréotypes qui correspondent au féminin et les petits garçons à des stéréotypes qui correspondent au masculin. Mais ça ne veut pas dire que si, à une époque de notre vie, on a été très imprégné par certaines façons très stéréotypées de se comporter, que c'est une imprégnation qui est là à tout jamais. Pas du tout, puisque justement grâce à cette plasticité cérébrale, à tous les moments, à tous les âges de la vie, on peut changer d'opinion, on peut changer d'attitude.
On peut changer de sexe.
On peut changer de sexe aussi, ça c'est de la bonne plasticité. On peut changer d'itinéraire de vie. C'est ça le plus important, c'est d'expliquer que l'être humain a une spécificité qui est celle qu'il a une liberté de choix dans ses actions et dans ses comportements. Et qu'il n'est pas une sorte de machine neuronale qui répond à un programme génétique.
Ah, les hormones, on écoute Anne Sylvestre.
Elle a raté la mayonnaise, on espère encore qu'elle se taise. Elle a 36 idées par heure, quand elle a pas le fou rire, elle pleure. D'un seul coup, elle est irascible, puis elle devient hypersensible. Elle dit que ça la tarabuste, et elle prétend que c'est injuste. Elle rouspète, elle ronchonne, elle peut plus supporter personne. C'est la faute aux hormones, Simone, c'est la faute aux hormones. C'est la faute aux hormones, Simone, c'est la faute aux hormones. C'est vers 12 ans que ça débarque, elle accepte plus les remarques. Elle désespère l'entourage, en tenue de ski sur la plage. On ne peut plus et c'est un comble, la plaisanter du bout de l'ongle. C'est l'éternelle féminine qui fleurit en cette gamine. Elle était pourtant bien mignonne, ça y est, elle nous empoisonne. C'est la faute aux hormones, Simone, c'est la faute aux hormones. C'est la faute aux hormones, Simone, c'est la faute aux hormones. quand c'est devenu la routine, qu'elle y a mis une sourdine, on se croit sorti de l'auberge, c'est alors qu'elle nous submerge, de lait, de tétine, de couche, ah non, il faut plus qu'on y touche, elle se prend pour un tabernacle, on devrait crier au miracle, elle s'arrondit, elle ronronne, elle n'est jamais là quand on la sonne.
Ah, les hormones, vous citez Anne Sylvestre avec cette chanson. Mais il n'y a pas que les hormones, il y a aussi toute la domination masculine. Et cette domination masculine nous a fait croire depuis des siècles, depuis l'aube de l'humanité, que les femmes étaient inférieures aux hommes. Et la science y est employée pendant très longtemps. Et dans votre dernier ouvrage, qui s'intitule « Nos cerveaux tous pareils, tous différents », vous citez en exergue cette phrase magnifique de Dostoïevski, tiré du texte « L'adolescent » 1875, « L'homme est une machine si complexe que souvent on ne s'y retrouve plus, surtout si cet homme est une femme. »
Oui, les citations qui sont rassemblées dans ce livre sont assez croustillantes parce que elles illustrent vraiment les points de vue d'une époque. Mais je citerai aussi Albert Einstein qui disait « Il est plus difficile de lutter contre un stéréotype que de désagréger un atome. » Et c'est vraiment, lui aussi, savait à quel point la lourdeur de certains préjugés sont des entraves, justement, pour l'avancement des idées en science. Il avait évidemment complètement conscience de l'impact des rapports entre science et société et de l'importance de s'adresser à la société pour parler de science.
Alors science, idéologie, féminisme, c'est pas tout à fait les mêmes combats, car vous, Catherine Vidal, vous avez des opposants mais aussi des opposantes. Et au mois de juin dernier, une psychologue, je crois canadienne, qui s'appelle Susan Pinker, vous a opposé des expériences qu'elle avait faites aussi sur des cerveaux hommes et des cerveaux femmes, et où elle explique quand même qu'il y a des différences. Donc, que dit la science ?
Bon, à nouveau, c'est pas la science, c'est que disent les expériences.
Et les protocoles d'expérience et le nombre de personnes qui se soumettent à ces expériences.
Exactement. Donc, très souvent, pour défendre l'idée d'un déterminisme génétique dès le départ qui ferait que les cerveaux des petites filles et des petits garçons seraient câblés différemment. En fait, il y a deux types d'expériences qui sont très régulièrement citées pour, justement, soi-disant, conforter cette idée d'un déterminisme dès le départ. Alors, il y a une expérience qui est toujours très, très, très reprise dans les médias. C'est une expérience qui a été faite dans les années 2000 sur des petits bébés d'un jour et demi. Et cette expérience montrait, telle qu'elle est relatée, que les petits bébés filles regardent plus les visages, alors que les petits bébés garçons regardent plus les mobiles, les objets mécaniques. Alors, quand on entend ça...
Un jour et demi, oui, c'est un peu jeune. Quoi.
Voilà. Alors, ce qui est important face à ce genre d'argument, qui a l'air imparable, vu comme ça, on va regarder les détails des conditions de l'expérience. Et on s'aperçoit que l'expérience ne montre pas ça du tout. Que parmi les cinquantaines de bébés qui ont été testés, en fait, la majorité ne s'intéressait à rien du tout. Hein, parce que au bout d'un jour et demi, fixer son attention, fixer son regard n'est pas quelque chose de généralisé, on va le dire. Et puis, surtout, le visage en question, c'était le visage de l'expérimentatrice. Et le mobile en question, c'était simplement un ballon avec dessus collé un fil et une bille. Donc, vous voyez, c'est pas du tout la notion d'objet mécanique et qui laisserait croire qu'ensuite les garçons soient naturellement attirés vers les sciences et les techniques et les filles attirées vers les professions d'attention aux autres, de soins et d'éducation.
Susan Pinker, elle vous oppose quand même des différences.
Oui, bah justement, elle met en avant cette expérience, par exemple, pour dire, voyez, on a démontré que dès la naissance, il y avait des différences.
Mais pourquoi des chercheuses s'obstinent-elles à essayer d'expliquer la supériorité des hommes ?
Mais ce n'est pas une question de chercheuse ou de chercheur, c'est une question d'une réalité sociale, économique, politique, culturelle, qui fait qu'aux États-Unis en particulier, il y a des courants très importants qui militent pour justement mettre en avant les idées d'un déterminisme biologique qui ferait que dès le départ, les garçons et les filles seraient différents, parce que derrière aussi, il y a des enjeux de société. Il y a par exemple, dans certains États, des écoles qui ne veulent plus qu'il y ait des classes mixtes et qui considèrent que, soi-disant, puisque les cerveaux des garçons et des filles ne sont pas les mêmes, il faut leur donner des programmes scolaires différents et il faut leur adapter des méthodes pédagogiques différentes. Et aussi, ils veulent qu'il y ait des contenus différents où, soi-disant, justement, les filles...
Pas de mathématiques, mais de la couture, comme on faisait il n'y a pas si longtemps.
Et le problème, c'est que les écoles où on prône cette séparation des élèves dès le plus jeune âge, c'est aussi des écoles où on va enseigner le créationnisme au même titre que le darwinisme. Donc, vous voyez, il faut remettre... Dans un contexte social, à nouveau, science-société, c'est ça le mot-clé. On ne peut pas comprendre la science ou les sciences si on ne la remet pas dans son contexte historique, social et culturel.
Nous allons écouter la voix de Maurice Godelier à propos du rôle de l'anthropologue et de ses rapports avec la politique. C'est une archive du 22 octobre 1975, car je souligne que vous, Catherine Vidal, vous êtes une scientifique dure et pure, mais vous utilisez tous les champs disciplinaires des sciences humaines pour alimenter votre réflexion.
Je pense que la situation actuellement est de transformation radicale du rapport entre la connaissance et l'action, la science et la société dans laquelle l'homme qui poursuit des recherches scientifiques se trouve engagé. Bien des anthropologues se refusant à être complices d'une intervention sur les populations qu'ils étudient, veulent abandonner leur discipline. Certains, même pour des raisons politiques, préféreraient rester dans le pays où ils sont pour combattre aux côtés des peuples dominés contre la domination. Dans ce cas-là, la mise en question de la discipline devient radicale, on aboutit à un abandon et à un changement de vie par l'anthropologue. Je pense qu'il y a là une erreur profonde. Je comprends les raisons de certains, il y a une erreur profonde. Le rapport entre l'anthropologue et les populations qu'il étudie, c'est aussi le rapport entre l'anthropologue, sa société à lui, et la société dans laquelle il va travailler. Et donc, je pense que là, c'est tout à fait normal qu'un anthropologue prenne ses responsabilités et, devant des actions historiques et politiques, soit amené à critiquer ces actions, mais il doit faire, si vous voulez, en agissant sur sa propre société, c'est-à-dire c'est en dehors même et au-delà du champ de la discipline scientifique, du travail abstrait, c'est dans les racines profondes de sa société, c'est contre les structures mêmes de sa société qui entretiennent un certain type de rapport de domination avec l'Afrique ou l'Amérique ou l'Asie, c'est là que se porte le combat et il dépasse de largement et le travail scientifique et le monde académique et la carrière professionnelle. C'est une attitude qu'il doit avoir avec d'autant plus de responsabilité qu'il est mieux informé, qu'il doit avoir dans sa société pour transformer sa société et établir des nouveaux rapports entre nations, entre sociétés et donc, en quelque sorte, une partie de ses problèmes aura sa solution d'un changement de sa société.
Vous êtes comme Maurice Godelier, Catherine Vidal, une militante au nom de la science pour une évolution des rapports dans notre société.
Oui.
Transformation, peut-être même.
Oui, et des transformations, ce serait formidable si ça se fait rapidement. Ce qui est important, justement, quand on prend conscience à quel point il existe des liens intimes entre l'activité scientifique, le produit de nos connaissances et les conséquences qu'on va et l'impact dans la société à tous les niveaux. On voit bien à l'heure actuelle les nouvelles technologies. Les gens sont dans une espèce d'incompréhension. Ils ont des nouveaux outils et ils ne comprennent pas au départ qu'est-ce qui a mené à la fabrication de ces outils et comment ils marchent. Quand on est scientifique et qu'on essaye de diffuser justement auprès d'un large public L'avancée de nos connaissances scientifiques, ça participe justement à donner à ce public un moyen de compréhension du monde qui l'entoure. Et si on comprend le monde qui nous entoure, hein, au lieu de subir des modes de technologie sans comprendre ce qui se passe, si on comprend le monde qui nous entoure, à ce moment-là, on est capable aussi de avoir un avis critique parce qu'on comprend mieux. Et en fait, c'est aussi un moyen de montrer que toutes les thèses obscurantistes et conservatrices qui voudraient que l'ordre biologique soit finalement le moteur de l'ordre social, on peut à ce moment-là comprendre, quand on sait comment la science se développe et comment les sociétés se développent, avoir plus d'avis critiques et plus de moyens d'action sur ce monde qui nous entoure.
Enfin, on voit bien quand même que la psychologie évolutionniste dont vous parliez tout à l'heure gagne du terrain, pas seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe et même en France. On a bien vu certaines manifestations, les foules qui descendaient contre le mariage pour tous. On voit bien que dès qu'on porte atteinte à ce soi-disant ordre biologique, il y a une partie de la population qui se sent agressée au cœur même de sa propre intimité. Comment l'expliquez-vous? Et pourquoi justement aussi peu de rationalisme?
Le rationalisme, il peut exister dans la démarche scientifique, et encore pas toujours, mais il faut déjà, pour en parler, s'intéresser et convoquer les sciences humaines et sociales, qui sont ces disciplines-là sont les premières pour expliquer la persistance des idéologies, la persistance des préjugés, pourquoi justement cet ordre social fait l'objet de tels discours qui veulent justement ne rien changer à une société qui aurait soi-disant été fondée de tout temps par la nature. Parce que pour un certain public, si c'est naturel, ça veut dire que c'est normal et immuable. Donc, bien évidemment, face à cette vision des choses, j'essaye d'apporter une petite brique dans la compréhension des sociétés qui nous entourent, en montrant que, justement, les cerveaux des femmes, des hommes, de tous les êtres humains ne sont pas formatés dès la naissance pour ensuite être prédestinés, pour faire en sorte que les hommes et les femmes ne se sentent pas mis dans des cases et avoir justement aucun choix dans leur chance dans la vie, parce que on est né garçon ou fille. Le plus important, justement, c'est d'œuvrer pour cette égalité des chances entre tous les êtres humains et entre les filles et les garçons dans les choix d'éducation, dans la vie professionnelle et dans tous les aspects de la vie en général.
Merci Catherine Vidal. Je rappelle que vous êtes l'auteur de plusieurs livres qui non seulement ont le mérite d'être très clairs, accessibles à toutes et à tous, mais aussi pas cher, parce que ce sont des livres de poche, « Féminin, masculin, mythe et idéologie »,« Hommes-femmes, avons-nous le même cerveau ?»,« Les filles ont-elles un cerveau fait pour les maths ?» Et le dernier s'intitule « Nos cerveaux, tous pareils, tous différents ». Merci beaucoup. Les cerveaux masculins de Pascal Bénard et de Didier Lagarde, mais aussi les cerveaux féminins d'Élodie Royer et de Corinne Amard nous ont permis de faire cette émission. Je les en remercie. Vous écoutez France Culture. Bonne fin de soirée.